Bonjour Nicolas Boutier.
Bonjour Guylaine.
Nous voici une nouvelle fois réunis pour cette émission mensuelle qui donne des nouvelles de l'Église protestante unie en Cévennes, Languedoc-Roussillon, via le magazine protestant régional, le CEP.
C'est ça. C'est vrai que ça fait une présentation très longue à chaque fois.
Mais il faut tout dire.
Il faut tout dire, sinon il manquera un morceau.
Ah là 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 là, Nicolas, le sujet du mois dans le CEP, c'est la politique. Bravo, bravo pour la synchronicité avec l'événement national. C'est vraiment un beau numéro.
Je pense que la synchronicité, comme vous dites, n'est pas due au hasard.
Ah, oui.
C'est parfois
difficile pour nos petites structures d'être comme ça, de coller à l'actualité nationale.
Les dossiers sont préparés, disons que les thèmes des dossiers sont choisis un an ou deux ans à l'avance. Donc c'est vrai qu'on savait où est-ce qu'on se dirigeait. Après, c'était difficile de dire est-ce que ce serait le numéro d'avril ou le numéro de mai. Mais voilà, donc ça tombe bien, et puis ça tombe bien dans notre situation politique actuelle, je trouve.
Exactement. Alors, dans votre éditorial, Nicolas, vous évoquez les références chrétiennes de deux candidats aux élections présidentielles, donc françaises. Et dans votre édito, la question que vous posez est finalement, quelle représentation ces deux personnes ont-elles du christianisme pour l'invoquer et la faire coïncider dans leur programme? Vous vous posez un peu ça. De quel christianisme nous parle-t-il?
Exactement. En fait, c'est ce qui m'a surpris, parce qu'on est dans un pays où on est quand même soi-disant laïque, avec différentes formes de laïcité, soit, mais un pays laïque, les références chrétiennes reviennent de temps en temps chez certains des candidats. Je ne sais pas si on peut citer leur nom, mais je...
Oui, bah, je pense.
Oui, François Fillon et Marine Le Pen. Et je me suis posé la question, personnellement, est-ce que leur christianisme est le mien? Et la réponse est pas tout à fait. Je pense que pour moi, du moins, ils n'ont pas compris le message de Christ. Et s'ils devaient revenir aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'eux-mêmes le reconnaissent et eux aient vraiment envie de leur parler. Ça, c'est autre chose. Mais voilà, c'est ce qui m'a un peu interpellé et qui m'a posé vraiment question. L'idée n'est pas complètement de moi, parce qu'elle avait été publiée par un auteur au moment de l'élection de Donald Trump. Et voilà, et après je l'ai faite mienne et je l'ai adaptée à la situation actuelle.
Et à vos pensées.
Et à ma pensée, oui.
Donc vraiment, je dois vous dire, Nicolas, que j'ai beaucoup aimé ce numéro, pas par le dossier, bien sûr, que vous avez, qui est opportun, nous l'avons dit, mais aussi par la façon dont vous traitez ce sujet, théologie et politique. Je trouve que les articles sont vraiment d'une originalité toutes différentes à chaque fois, et nous allons, si vous le permettez, peut-être les dérouler d'une façon peut-être un peu plus précise que d'habitude.
Je vous suis.
Alors, le premier article est signé par Olivier Bresse, qui fut membre et actif de la Mission Populaire Évangélique. Je ne sais plus s'il était président ou directeur.
Je ne sais pas si le terme est président ou directeur, mais il a été, oui.
Ouais, en tout cas, responsable.
C'est ça.
Et qui rappelle les liens entre le protestantisme et la démocratie. Et cela me convient de citer Olivier Bresse, qui nous dit que ce serait dans la dimension spirituelle du protestantisme, et notamment dans ce concept de la grâce, qu'il définit ainsi l'égale dignité de chaque personne, d'une dignité devant Dieu qui ne dépend pas du regard et du jugement des autres. Personne ne peut être enfermé dans un statut, aucun échec ne peut être considéré comme définitif, aucune gloire ne peut être tirée d'une réussite sociale quelconque. Et il continue en disant « Cette égale dignité de chaque personne devrait nous questionner sur notre manière de construire et de déléguer le pouvoir. » Alors, j'ai beaucoup aimé cette façon d'approcher une réflexion sur la politique en partant de la grâce.
C'est un article qui a posé beaucoup de questions aux différents rédacteurs. C'est assez rigolo parce que certains l'ont pas trouvé percutant pour introduire le dossier. Et nous avons, avec les trois rédacteurs avec lesquels je travaille, on a décidé de le conserver parce qu'on a trouvé justement qu'il était d'une justesse appropriée. Il y a cet élément-là, mais ce qui était assez intéressant, c'est que souvent on dit les protestants, la politique, ce qu'ils ont fait, leur place et tout, puis il la remet un peu en question en disant oui, soit ils ont été là, mais ils n'ont pas quand même, c'est pas eux qui ont changé la politique de la France. Ils ont donné des grandes pistes, mais ils n'ont pas toujours été à l'origine de toutes ces choses. Et c'est intéressant, il brise un peu le mythe. Et puis de revenir, bah, justement sur la grâce, c'est quand même on est dans les 500e anniversaire de la réforme, on est en plein dans le sujet, et de dire bah, cette grâce-là, c'est peut-être ce qui est aussi à l'origine de notre démocratie, c'est quand même plutôt révolutionnaire. Et pour citer André Manoukian, qui est un chroniqueur sur France Inter, et dans cette émission musicale, il reparle de ça, ce qui est assez étrange, le fait de chanter ensemble pour lui, qui a été mis en place par les protestants. Donc dans l'assemblée, tout le monde se lève, tout le monde chante en chœur, à l'unisson. C'est aussi une forme de démocratie. Il n'y a pas un clergé qui chante et qui prie et qui loue et qui que regarde un public. C'est tout le monde en même temps à l'unisson qui chante. Donc peut-être que là, on trouve une base de la démocratie.
Alors, quand on parle théologie et politique, il est forcément question de laïcité. Et là, c'est Michel Bertrand qui est professeur honoraire de théologie pratique à l'IPT, l'Institut protestant de théologie dans sa faculté de Montpellier, qui prend en charge cette question. Et son article commence ainsi « Ce qui met d'abord les églises et l'État à leur juste place, c'est la laïcité au sens large, un espace public, autonome, émancipé, des tutelles religieuses et organisé selon les seules logiques séculières. » Alors là, voilà, il replace un peu, il nous redit ce qu'est la laïcité aujourd'hui.
Son article est clairvoyant, mais ça c'est du travail de Michel Bertrand, il est toujours très clair dans ce qu'il dit et dans sa pensée, et je reconnais que c'est un article que j'ai eu le plaisir à qui j'ai eu le plaisir de le commander, donc j'ai vraiment apprécié ça. Et je reconnais que là aussi, dans cette période politique qu'on est en train de traverser, dans cette campagne électorale, où la laïcité est sortie un peu dans tous les sens, ce matin sur France Inter, en arrivant à la radio, Nicolas Hulot disait qu'il faudrait que le mot laïcité soit inscrit au fronton de nos mairies avec le reste de la devise liberté, égalité, fraternité. Je trouve l'idée très intéressante. Tout dépend ce qu'il met derrière la laïcité. Parce que est-ce que c'est une laïcité dure et violente que l'on peut parfois connaître en disant on ne veut plus entendre parler des religions, elles n'existent pas, il faut qu'on les sorte du terrain public? Ou est-ce que c'est justement de dire d'un côté il y a les religions, de l'autre il y a l'espace public, à égalité, chacun est indépendant l'un de l'autre, mais ils peuvent quand même communiquer à défaut de travailler ensemble. Ça voilà, je trouve qu'il y a des réflexions à faire et Michel Bertrand amène de jolies pistes.
L'article de Gérald Machabert, lui... Ah pardon, j'ai omis avant l'article de François Vouga, qui est le point de vue biblique. Et c'est dans les lettres de Paul que l'on trouve cet ancrage du politique, nous rappelle François Vouga, qui lui est professeur de Nouveau Testament à Wuppertal. Et là aussi, j'ai trouvé cet éclairage biblique vraiment très intéressant. Et il termine par des questions, François Vouga. Il termine en questionnant. Il nous dit, il nous demande, dans quelle mesure une démocratie qui reconnaît chacun, chacune comme citoyen, citoyenne, également responsable de la cité, résiste-t-elle aux sélections des systèmes électoraux? Et comment permet-elle l'éligibilité et la participation active de chacun? Comment s'immunise-t-elle contre son instrumentalisation par les partis et son parasitage par les intérêts propres des médias? Ne devrait-elle pas, demande-t-il, revaloriser le système athénien et néo-testamentaire du tirage au sort? Bon, est-ce qu'il ne va pas un peu loin quand même? Alors, Paul, le Nouveau Testament, Vouga, voilà, tirage au sort.
Bah, alors c'est impressionnant parce qu'en fait chaque article me rappelle des choses que j'ai découvertes cette année. Et lors du festival de la BD à Angoulême, j'ai participé à une table ronde et autour de la table ronde, il y avait un professeur de philosophie. Et le professeur de philosophie a dit « Aujourd'hui, nous sommes dans la dictature de la démocratie. » Le fait d'aller aux urnes et de voter, eh ben, on exerce une dictature. Parce qu'on va dire à un parti politique ben, « Ça sera toi, ça sera l'autre, avec les manipulations que ça entraîne. » Et finalement, il y a ce jeu qui se joue entre électeurs et politiques qui se présentent au suffrage. Et il y a plus, il y a des enjeux qui sont plus forts. Et alors, c'est peut-être une réponse que François Vouga apporte à ce système en disant pourquoi pas le tirage au sort? Pourquoi pas dire, comme un jury de tribunal, en fait, un jury de tribunal qui est sélectionné parmi la population. Dire, toi, là où tu es, aujourd'hui, on t'appelle à venir diriger la République. Et dans un an, dans 5 ans, tu repartiras à ta place. Et on n'est plus dans un système de carrière politique, mais dans un système de personnes qui sont élues par la nation ou choisies le sort en décidera. Ben voilà, c'est, je trouve que l'idée est vraiment très intéressante.
Un système citoyen, où le citoyen est plus responsabilisé au fond.
C'est ça. Ben c'est un peu ce qui a eu lieu, je ne sais pas si vous avez entendu parler, sur Facebook, il y a une candidate qui a été choisie par les citoyens en disant, ben, elle se présente, enfin elle a été plus ou moins choisie alors qu'elle n'a pas de compétences politiques, elle n'est pas élue de la République déjà, et, mais elle était prête à donner son, un temps de service à l'État. Mmh. On se dit, ben pourquoi pas, bon, elle n'a pas eu ses 500 voix, donc on n'entendra plus parler, mais l'idée germe de plus en plus quand même.
L'article de Gérald Vachabert pose toujours cette question du lien entre la théologie et le politique, et lui, il s'appuie sur un verset de l'évangile de Jean, et aussi sur la pensée du théologien Gabriel Vahagnan. Gérald Vachabert cite donc Jean, quand Jésus s'adresse à ses disciples, « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. » Et je trouve que là aussi, il y a quelque chose à entendre sur cette disponibilité de chacun, en tant que théologien, à faire parler la société et en même temps d'avoir une vision théologique. Voilà. Donc il manie un peu ces deux phrases, ces deux morceaux de phrases pour essayer de les faire correspondre.
Mais en fait, c'est ça qui est assez impressionnant, parce qu'on pourrait se dire que tout est dit dans la Bible, où toutes les réponses sont apportées.
C'est ça.
Bon, je ne sais pas si on a le droit d'aller aussi loin, mais...
On va laisser les auditeurs choisir.
C'est ça. Mais c'est là où c'est dommage, parce que finalement, les deux fameux candidats qui relèvent leurs origines chrétiennes et qui en font parfois un fer de lance, on se dit, mais si vraiment ils s'intéressaient au texte, ben, peut-être qu'ils pourraient apporter, en effet, une vision politique différente de celle qui est la leur aujourd'hui. Donc, et je pense qu'il y a vraiment, quelque chose à faire. Et ce qui est dommage, c'est que la laïcité rude que l'on connaît actuellement en France ne permet plus ce dialogue entre le politique et le religieux. Bon, sachant que une partie du religieux est pris lui-même par ses propres affaires politiques internes. Mais voilà, il n'y a plus de grands penseurs protestants qui pourraient être consultés aussi.
Ouais,
c'est peut-être ça.
Ouais.
Emmanuel Macron. Mais voilà, on ne peut pas dire qu'il est sorti de ses références et de ses fréquentations vraiment quelque chose d'intéressant. Mais, mais voilà.
Bon, voilà, on attend encore la personne qui aurait originalité ou peut-être cette vision.
Oui, c'est ça. Puis, j'allais dire, l'intelligence d'écouter. Parce que c'est pas de dire il y a des choses intéressantes, c'est d'aller chercher les gens qui peuvent être intéressants. Et alors, c'est pas forcément, ils vont pas forcément apporter des réponses, mais ils vont apporter des moyens de réflexion. Et ça, c'est peut-être ce qui nous manque aujourd'hui.
Pour terminer, de déployer avec vous, Nicolas Boutier, le dossier sur théologie et politique, l'article de Didier Fivet, pasteur à Toulouse, est certainement celui qui va le plus loin dans son analyse sur l'apport de la théologie à une réflexion politique. Encore qu'on a bien vu que tous les autres étaient précieux. Alors son incipit à lui est le suivant. « Penser Dieu aiderait à penser le monde et peut-être même le monde à penser. » Donc là encore, il y aurait une interaction, ça complète l'article de Vachabert, mais il va peut-être encore plus loin. « Penser Dieu aiderait à penser le monde. »
Oui, c'est vrai
c'est
un vrai programme. Hein. Alors là, c'est vrai que je me sens un peu moins à l'aise avec le sujet parce que c'est peut-être un peu plus théologique et donc voilà, c'est pour moi peut-être un peu plus difficile. Mais voilà, c'est dans la droite lignée des articles qui ont été déroulés juste avant. En fait, c'est alors peut-être qu'il y a on sent une progression dans la façon dont le dossier a été monté et c'est peut-être aller un peu plus loin. Mais là, je reconnais que dans l'état actuel des choses, penser Dieu aiderait à penser le monde, c'est, en tant que chrétien, on est tout à fait d'accord, en tant que Français qui s'engage dans les élections politiques, c'est peut-être plus difficile.
C'est pas encore acquis.
C'est pas encore acquis, non. Vraiment pas.
Vous écoutez Le CEP sur le réseau FM Plus 91 FM à Montpellier, 103.1 à Nîmes, une émission animée par Guylaine Dubois et Nicolas Boutier.
Nicolas Boutier, rédacteur en chef du journal Le CEP, vous signez dans ce numéro d'avril, qui, nous l'avons vu précédemment, est consacré, dont le dossier est consacré à théologie et politique, mais vous signez, vous, de votre nom, de votre patte, un article sur la Fondation Rollin, dont vous nous dites que c'est un lieu de calme et de nature où enfants et personnes âgées trouvent un refuge à la porte des Cévennes. Mais encore, Nicolas Boutier, qu'est donc ce lieu ?
Alors, c'est assez rigolo parce que pendant très longtemps, je suis passé devant la Fondation Rollin sans savoir ce que c'était. Alors, j'avais les grandes idées, mais c'était perdu au milieu de la forêt. Donc, on arrive à Anduze, on a un grand bois et on met Fondation Rollin. Et parce qu'ils fêtent leur 150e anniversaire, j'ai été invité par le conseil d'administration à faire un reportage sur le lieu. Et j'ai découvert un lieu, alors je ne peux pas dire passionnant ni intéressant, parce que c'est quand même fort et pas toujours facile, mais à l'intérieur d'un parc de 12 hectares, il y a deux EHPAD, donc c'est des lieux d'accueil pour personnes âgées dépendantes, un lieu d'accueil pour personnes âgées indépendantes, et une crèche. Donc c'est vraiment un lieu un peu extraordinaire. Alors ce sont plusieurs bâtiments qui sont comme ça dispersés au milieu de ce grand parc, et un côté en même temps très convivial. Alors il y a le fait de la verdure, enfin, vous arrivez, c'était le début du printemps, c'est l'herbe qui repousse, les fleurs qui jaillissent, et en même temps voilà, des lieux de calme et de quiétude. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que ben, ce sont des lieux où des personnes âgées arrivent et viennent là pour finir leur jour. Mais quel cadre, vraiment quel cadre pour finir ces jours, il y a pire.
Et vous avez aussi évoqué une crèche.
Oui, en fait à l'origine la crèche a été créée pour le personnel. C'est une crèche d'entreprise. Et puis rapidement, ben, y a le personnel, il y a à peu près 150 personnes qui travaillent, mais il n'y a pas assez d'enfants pour alimenter la crèche avec les enfants du personnel. Donc ils l'ont ouverte au bassin d'Anduze. Et c'est une dizaine d'enfants qui sont là. Et dès qu'il y a des fêtes un peu particulières au sein des EHPAD, ben, les enfants sont invités à rejoindre. Donc il y a un vrai lien intergénérationnel qui se fait. Et c'est assez impressionnant. Enfin, c'est, en fait, de passer du calme de la maison de retraite et arriver devant la cour de la crèche où les enfants sont en train de courir, de crier. C'est assez sympa.
Alors, il y a aussi un très beau texte, très personnel, celui de Serge Raspeau, qui est un membre connu de l'église locale et qui dit son attachement au texte sur le chemin d'Emmaüs. Alors, rappelons-le rapidement, hein, sur le chemin d'Emmaüs, c'est l'histoire de ces deux disciples qui marchent sur un chemin après la mort de Jésus à Jérusalem. Ils parlent entre eux de cette situation, de la mort de Jésus, en qui ils avaient placé tout leur espoir. Et ce qui est intéressant dans l'article de Serge, enfin dans ce témoignage, c'est qu'il retient dans ce texte la force de la rencontre, l'événement de la rencontre, l'instant de la rencontre, et non l'identité des hommes. Je trouvais cet angle très intéressant.
Alors, Serge Raspeau est aussi directeur de publication du journal.
Comment je peux oublier ça?
Ce n'est pas qu'à ce titre-là qu'il écrit. Hein, c'est parce que voilà, il avait des choses à dire. Ce qui est intéressant, je pense, c'est que dans cette page, on demande le parcours personnel des personnes. Et dans ce texte, c'est ça qui l'a marqué. C'est que lui, il a fait beaucoup de rencontres. Et je pense que ces rencontres l'ont construit dans sa foi. Et c'est ça qu'il a reconnu, et il se reconnaît peut-être dans les compagnons d'Emmaüs, en disant, ben voilà, on avance sur un chemin, et puis on fait des rencontres, on est bouleversé, et comme ça, notre foi grandit et s'épanouit.
Ouais, des rencontres qui font sens à chaque fois.
Et... Exactement.
Alors, dans la rubrique jeunesse, là, c'est une rubrique qui s'adresse plus aux plus âgés que d'habitude, j'ai envie de dire. Vous présentez l'association Coexister, une association interreligieuse qui s'adresse aux moins de 30 ans, me semble. Alors, que propose cette association ?
Alors, c'est assez intéressant parce que Coexister, en fait, il faudrait voir le logo, la radio, c'est difficile, mais dans le mot Coexister, ils ont repris le croissant de l'islam, l'étoile de David et la croix des chrétiens. Donc, c'est, voilà, des jeunes. Alors, je sais pas à partir de quel âge, mais on va dire jeunes étudiants, en fait, ce sont des étudiants, qui ont décidé ensemble de se réunir et de pouvoir dialoguer sur des questions de société, sur des grands événements. Et donner un point de vue à travers ces trois religions. Et ça fait un moment que je suis leur groupe, parce que je suis assez impressionné, parce que c'est à la fois un groupe qui a décidé de discuter de par leurs origines, chrétiennes, musulmanes ou juives, mais en même temps, le but n'est pas de parler de religion. Le but, c'est que chacun arrive avec sa religion, on n'est pas là pour convertir ou pour faire autre chose, on vient apporter des éclairages par rapport à des grands sujets de société. Et je reconnais que moi, c'est un groupe que je trouve particulièrement intéressant. Et je pense que l'Église commence à s'y intéresser, mais pourrait vraiment s'en inspirer.
À suivre. Et enfin, Nicolas Boutier, je suis ravie, heureuse que sur la page radio de votre magazine apparaisse, aux côtés de FM+, aux côtés d'Alliance+, une nouvelle radio qui n'est certes pas nouvelle dans l'histoire, mais qui apparaît là sur vos pages, Radio Grille Ouverte d'Alès.
Alors, il y a dans la région Cévennes Languedoc-Roussillon trois radios qui revendiquent des origines protestantes, on va dire. Et Radio Grille Ouverte manquait. D'ailleurs, Radio FM+, pendant un certain temps, manquait aux pages du CEP. On y est arrivé à intégrer. Radio Grille Ouverte manquait. J'ai essayé de pouvoir réunir les trois radios sur une même page pour que nos lecteurs puissent se rendre compte de la diversité, parce que je pense que ce sont trois radios avec trois identités différentes. Et puis, leur localisation font que, en fonction de là où on est, on peut être plutôt intéressé par l'une ou l'autre. Et donc, je me disais que ça pouvait être intéressant de travailler, mais ça, l'idée ne vient pas que de moi, n'est-ce pas, Guylaine?
Et enfin, Nicolas, vous avez fait honneur à la tradition populaire et païenne du 1er avril, car vous avez bien placé un petit fake dans votre numéro.
Un tout petit.
Un tout petit, adorable.
C'est vrai que dans les pages du CEP, on m'a longtemps parlé, surtout dans les chroniques, des fameuses oreillettes. Et donc, l'idée ne vient pas complètement de moi. C'est un ancien membre du comité de rédaction qui m'a dit « Nicolas, j'ai l'impression que les poissons d'avril ont disparu du CEP. Ouais. Donc, est-ce que tu pourrais en remettre un ?» Et il m'avait donné deux idées. Et j'ai retenu celle des oreillettes parce que voilà, c'est vrai que les oreillettes prennent de la place. Et parfois, les annonces sont particulières. C'est pour vous expliquer rapidement, on annonce que chez Marguerite, on va fabriquer des oreillettes le lundi 15 à 14h. Mais qui est Marguerite et où on se retrouve, c'est pas dit. Donc je veux bien annoncer la vente des oreillettes, mais la réunion, c'est déjà un peu plus particulier. Et donc là, j'ai demandé, en gros, il faudra que vous alliez vous précipiter dans le CEP pour voir exactement comment c'est présenté. En gros, ce que je demande, c'est que chacune des paroisses qui annonce la vente d'oreillettes dans leur paroisse m'envoie un échantillon pour que je puisse les déguster. On ne sait jamais, il ne faudrait pas qu'ils empoisonnent leurs paroissiens.
Et attention, c'est un règlement très sérieux.
Règlement très sérieux, copier-coller d'un règlement de l'Europe. Donc vraiment, il faut rentrer dans les clous, là, sinon ça ne va pas le faire.
J'en ai fini de ma lecture de ce numéro du CEP d'avril 2017. Auriez-vous aimé que je vous parle d'autre chose dans ce numéro, dans lequel il y a bien d'autres rubriques, mais il a fallu faire une sélection?
Bon, il y a un article sur lequel vous pourriez plus parler que moi, mais je pense que dans l'émission, il y a des choses qui sont déjà, dans votre radio, des choses qui sont déjà passées sur Emouna, l'amphi des religions. Donc, voilà, on a décidé de consacrer une page entière dans l'actualité nationale. Parce que, voilà, c'est quelque chose d'important qui se passe en interreligieux, justement. Mmh. Donc, peut-être que coexister a inspiré ou des choses qui vont se faire, mais c'est assez intéressant de voir que plusieurs religions ont décidé de parler ensemble de différents sujets, en particulier de laïcité.
Absolument, une formation portée par Sciences Po, ce qui n'est pas rien. Sciences Po qui n'a pas l'habitude de s'adresser à des religieux et voilà, qui sont aussi comme ça en découverte de voilà, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, ces religions, pour la vie en société. Et oui, je crois que c'est vraiment une belle démarche de Sciences Po et de tous les organismes religieux qui ont fondé cette formation.
Alors c'est le hasard quoique, mais je trouve que ça correspond vraiment au dossier, c'est dans la droite ligne du dossier qu'on a pu développer tout à l'heure. Et après il y a peut-être l'article sur Saint-Privat-de-Valongues et le collège d'Aize. C'est aujourd'hui important, nous, dans les pages régionales du CEP, de pouvoir aller à la rencontre des paroisses. Alors des paroisses qui ont certaines des vies très faciles, si on prend des grandes villes tout se passe bien, mais il y a des paroisses qui sont très isolées. Saint-Privat-de-Valongues, on est en Lozère, on est au cœur des Cévennes, dans des endroits j'allais dire perdu, quoique au pied du village passe une nationale. Mais c'est des endroits où il n'y a pas de bassin d'emploi. Donc des petites communautés qui sont toujours là, qui sont toujours vivantes et qui essaient de trouver des nouvelles forces vives. Donc ils ont décidé récemment de s'unir. En fait, donc il n'y aura plus qu'une seule paroisse, Saint-Privat et le collège d'Aize. Donc ça réduit le conseil, ça laisse plus de forces vives autour de la paroisse. Je trouve que ça, c'est intéressant. Et c'est des pistes qui peuvent aider à réfléchir d'autres paroisses. Et en se réunissant, il y a un petit conseil presbytéral, comme ça doit faire. Mais de deux, on n'en fait qu'un. Donc il y a encore des forces vives autour et on peut aller piocher régulièrement dans ces forces vives. Et puis c'est toujours impressionnant. Enfin, voilà, on est au fond des Cévennes. C'est là où étaient les Camisards, c'est là où sont passées les grandes luttes. C'est là où ont été accueillis aussi les résistants. Et c'est toujours des témoignages assez forts et assez impressionnants des personnes qui sont là, qui sont nées là, qui ont vécu là. Et des personnes avec une foi vraiment ancrée au fond de leur cœur. Et c'est pas une foi toujours intellectuelle, quoique. Mais c'est quelque chose de très très fort et ça bouleverse et ça peut nous déplacer nous-mêmes.
Et il est certain que c'est dans votre vue que ces témoignages-là, ces vies-là ont leur place.
Oui, on est tout à fait d'accord. Et en même temps, l'idée, c'est de dire aux autres paroisses, regardez ce qui se passe ailleurs. Vous avez des idées à prendre, vous pouvez échanger, vous pouvez partager. Vraiment, il y a quelque chose à faire ensemble.
Merci Nicolas Boutier.
Merci Guylaine.
À bientôt.
À bientôt.
Thank you.